Chapitre 12e. Ma chère Suzanne, dit M. Cloarec à la gouvernante lorsqu'il fut seul avec elle, je veux d'abord vous remercier encore de vos excellents soins pour ma fille. Pauvre mademoiselle Sabine, est-ce que je ne l'ai pas nourrie? Est-ce qu'elle n'est pas aussi un peu mon enfant? Vous avez été une seconde mère pour ma fille, je le sais. C'est donc au nom même du tendre attachement que vous lui avez toujours prouvé que je désire vous entretenir d'une chose fort grave. De quoi s'agit-il, monsieur? Vous avez appelé votre neveu auprès de vous depuis 2 mois environ. Il habite ici.
Oui, monsieur.
Et c'est même au sujet de ce pauvre garçon que je désirais vous parler ce soir. C'est aussi de lui que je viens vous parler, Suzanne.
Je vais, monsieur, vous expliquer pourquoi je... Sabine m'a tout dit.
Mon Dieu, monsieur, est-ce que vous êtes fâché?
Fâché?
Non, Suzanne, mais inquiet, alarmé.
Alarmé? Mais de quoi donc, monsieur?
De la présence de votre neveu dans cette maison.
Ah, monsieur, si j'avais pu prévoir que cela vous fût désagréable, je me serais bien gardé de faire venir ce pauvre garçon près de moi. Mais il était si malheureux, et je vous savais si bon, monsieur, que j'ai cru pouvoir prendre sur moi de...
Vous m'avez rendu trop de service, Suzanne, pour que toutes les personnes de votre famille n'aient pas toujours droit à mon appui, à mon intérêt. Ce que je vous reproche, c'est une grave imprudence.
Excusez-moi, monsieur, je ne vous comprends pas.
Votre neveu est jeune.
Il vient d'avoir 25 ans.
Il est bien élevé. Son éducation a été cultivée.
Que trop pour sa position, monsieur. Ma pauvre sœur et son mari avaient fait de grands sacrifices pour lui. Comme il a une vue si mauvaise qu'il ne voit pas 10 pas, infirmité qui lui interdisait l'accès de bien des carrières, sa famille avait voulu, en lui donnant une excellente éducation, le mettre à même d'entrer dans le clergé, mais il n'y a pas eu moyen. Onésime n'avait pas la vocation, alors il a bien fallu se rabattre sur les bureaux. Il a obtenu une petite place et je sais le reste. Son extérieur, quel est-il?
Dame, monsieur, le pauvre garçon n'est ni beau ni laid, il a une figure très douce, seulement sa myopie lui donne un regard un peu effaré. Du reste, c'est bien la meilleure créature qu'il y ait au monde. Vous n'avez, monsieur, qu'à parler de lui à mademoiselle, vous verrez ce qu'elle vous en dira.
En vérité, Suzanne, un pareil aveuglement me confond.
Quel aveuglement, monsieur?
Comment, vous, Suzanne, qui avez de l'expérience et beaucoup de bon sens, vous n'avez pas senti,
je ne vous dirai pas l'inconvenance, mais la grave imprudence qu'il y avait à appeler votre neveu sous le même toit que ma fille,
et à les exposer à vivre ainsi tous deux dans la complète intimité d'une vie retirée?
Je sais bien, monsieur, que je ne suis qu'une domestique et que mon neveu...
Est-ce qu'il s'agit de cela? Est-ce que ma fille et moi n'avons pas toujours tâché de vous prouver que vous étiez pour nous une amie et non une servante?
Alors, monsieur, je ne vois pas la cause de vos reproches.
Et malheureusement, non, vous ne l'avez pas vu, car si vous aviez été plus clairvoyante, vous vous seriez aperçu de ce qui est arrivé.
Ah, mon Dieu, monsieur, et qu'est-il donc arrivé?
Sabine aime votre neveu.
Mademoiselle?
Elle l'aime, vous dis-je.
Mademoiselle? Aimer Onésime? Monsieur ne parle pas sérieusement.
Comment? Quand il s'agit de ma fille?
Si, monsieur, pardon, vous parlez sérieusement, je n'en doute pas. Mais vous êtes dans l'erreur la plus profonde.
Encore une fois, Sabine aime votre neveu.
Monsieur, c'est impossible.
Impossible, et pourquoi?
Parce que ce pauvre garçon est timide comme une fille, parce qu'il n'est pas beau, parce qu'il n'y voit pas clair, et qu'à cause de cela, il fait par jour 20 maladresses, dont mademoiselle est parfois la première à se moquer.
Ah, si celui-là est jamais un héros de roman, par exemple?
Non, non, monsieur, rassurez-vous. Sans doute, mademoiselle s'est montrée pour Onésime bienveillante et bonne, parce qu'après tout, c'est mon neveu et qu'elle en a eu pitié, mais...
Eh, femme aveugle que vous êtes!
Vous n'avez donc pas prévu que Sabine, avec son caractère, avec son extrême sensibilité, avec son angélique bonté pour tout ce qui souffre, risquait d'éprouver pour votre neveu d'abord de la pitié et ensuite un sentiment plus tendre? Et voilà ce qui est arrivé.
En vérité, monsieur, est-ce possible, mademoiselle, jeter les yeux sur un pauvre garçon comme lui?
Mais c'est justement parce qu'il est pauvre, parce qu'il est faible, timide, parce que son infirmité même le met dans une position exceptionnelle et pénible, que Sabine l'aura aimé. Vous, qui la connaissez aussi bien que moi, comment n'avez-vous pas prévu cela?
Fasse le ciel que votre aveuglement n'ait pas de suite funeste. »
Ah, monsieur, reprit la gouvernante avec accablement, vos paroles m'éclairent, mais trop tard.
Oui.
J'étais bien imprudente, bien coupable, mais... Non, non, je ne puis encore croire à ce que vous m'apprenez. Mademoiselle Sabine ne vous a pas avoué qu'elle aimait Onésime.
Eh non, sans doute, elle ne m'a rien avoué.
Mais j'ai tout deviné. Pauvre enfant, elle est si candide, si sincère, on lit dans son cœur à livre ouvert. Et d'ailleurs, n'ai-je pas remarqué sa rougeur, les battements de son sein, lorsqu'elle parlait de lui? N'ai-je pas remarqué le dépit, la tristesse même qu'elle a montrée lorsque, voulant l'éprouver, j'ai hasardé une plaisanterie sur une brûlure qu'il s'est faite à la main, m'a dit Sabine. Elle l'aime, vous dis-je, et cela renverse des projets que j'avais formés.
Mais qu'avez-vous? Pourquoi cette pâleur, ces sanglots, Suzanne?
Suzanne, relevez-vous,
s'écria Cloarec, en voyant la gouvernante se jeter à ses genoux. Quelle émotion! Mais qu'avez-vous donc à m'apprendre?
Ah, monsieur, j'ai une crainte, et elle est horrible.
Expliquez-vous.
Mon Dieu, monsieur, si vous alliez supposer qu'en appelant mon neveu ici, et le rapprochement ainsi de mademoiselle, j'avais calculé, espéré, un mariage?
Ah, Suzanne, vous me faites injure de me croire capable de supposer une pareille infamie.
Je vous en supplie, monsieur, dites, oh, dites que vous ne me croyez pas capable de cela.
Je vous répète que vous avez été imprudente, irréfléchie, et voilà tout, et c'est bien assez.
Mais quant à vous accuser d'une arrière-pensée indigne, ce serait insensé.
Je comprends même que certaines particularités de l'existence de votre neveu aient dû vous sembler une garantie suffisante, et que le jugeant comme vous le jugiez, sans conséquence, vous n'ayez pas même soupçonné le danger qu'il pouvait y avoir à le rapprocher de ma fille.
Hélas, monsieur, c'est la vérité. Moi, je le regardais comme n'ayant pas plus de conséquences qu'un enfant.
Je le crois, vous dis-je, mais enfin, le mal est fait.
Heureusement, monsieur, le mal peut se réparer. Demain matin, à la pointe du jour, Onésime aura quitté la maison pour n'y jamais remettre les pieds.
Je ne le veux pas,
s'écria Cloarec.
Et Sabine?
Comment, monsieur?
Mais ce départ peut la désoler, peut la tuer, faible, impressionnable, nerveuse comme elle l'est.
Ah, c'est la sensibilité de sa malheureuse mère.
Mon Dieu, je le vois, je suis bien coupable,
dit la gouvernante en pleurant.
Que faire, monsieur, que faire?
Eh, le sais-je moi-même?
Cloarec se promena pendant quelques moments en silence et d'un air agité. Puis il dit soudain à Suzanne, plongée de son côté dans un douloureux accablement.
Où est votre neveu?
Ici près, dans la chambre bleue, monsieur. Je lui avais dit d'aller m'y attendre. Je devais lui faire connaître le résultat de l'entretien que je devais avoir avec vous à son sujet.
Faites-le venir.
Ici, monsieur?
Oui.
Ah, monsieur, pardon, pardon pour lui, s'écria Suzanne, en joignant les mains avec anxiété, car bien qu'Yvon, pendant cet entretien, ne se fût laissé entraîner à aucun emportement, tout en s'exprimant avec chaleur et énergie, la gouvernante redoutait quelque soudain retour aux furieuses colères du passé.
Aussi, reprit-elle, je vous jure, monsieur, que ce n'est pas sa faute. Le malheureux enfant est innocent de tout. Il ignore tout, j'en suis certaine. Ah, de grâce, ayez pitié de lui.
Faites-le venir, vous dis-je.
Monsieur, il quittera la maison cette nuit à l'instant.
Et ma fille, encore une fois, ma fille, voulez-vous donc qu'elle meure, de chagrin, peut-être?
Monsieur, un mot seulement.
Il se peut encore que mademoiselle n'éprouve pour Onésime qu'un faible penchant, que l'absence lui fera sans doute oublier.
Et si elle n'oublie pas, et si cet amour est vrai, profond, comme il doit l'être, s'il est enraciné dans une âme telle que celle de Sabine,
non, non, pauvre enfant, ce serait lui faire injure de la croire capable d'aimer légèrement. C'est sa mère, vous dis-je, sa mère, avec sa sensibilité pleine de dévouement et d'exaltation.
Hélas, monsieur, ce que vous dites me navre, me désespère, et malgré moi, je suis forcé d'avouer que vous avez raison.
C'est seulement à cette heure que je reconnais toutes les conséquences de ce fatal rapprochement, car malheureusement, ce n'est pas tout.
Que voulez-vous dire,
monsieur?
Mais parlez, parlez donc!
Malheureux enfant, il ne faudrait pourtant pas lui en vouloir.
Lui en vouloir, mais de quoi?
Car enfin, monsieur, et cela ne serait pas de sa faute. S'il était étranger à l'affection qu'il inspire à mademoiselle, si cette affection il ne la partageait pas.
Malédiction !
S'écria Cloarec. Puis, après un moment de silence, il dit à la gouvernante, d'une voix brève,
« Faites venir votre neveu. »«
Monsieur, » s'écria Suzanne avec effroi, « ne me demandez pas cela. Obéissez. »
« Vous me tuerez plutôt, monsieur, » répondit Suzanne avec résolution.
« Non, il ne viendra pas. Je vais lui faire quitter la maison. Je ne l'exposerai pas. »«
À quoi,
monsieur ?
À mes emportements, n'est-ce pas ? À ma violence ? À ma colère ?
Je vous en supplie, monsieur, ne...
Eh ! Ne voyez-vous pas que l'amour que ma fille a pour lui le rend sacré pour moi ?
Mais s'il ne l'aime pas, lui, monsieur ?
S'il ne l'aimait pas !
S'écria Cloarec en devenant d'une effrayante pâleur. Puis, sans ajouter un mot, et avant que la gouvernante, frappée de stupeur, eût pu faire un mouvement, il quitta le salon et arriva en 2 minutes à la chambre bleue occupée par Onésime. Ouvrir la porte de cette chambre, la fermer sur lui à double tour, afin d'empêcher Suzanne d'entrer et Onésime de sortir, ce fut pour Cloarec l'affaire d'un moment, et il se trouva bientôt seul avec le neveu de Suzanne.